Je m'appelle Didier. Mon épouse est décédée de maladie. J'ai toujours été convaincu que le temps ne suffirait pas à apaiser ma tristesse. J'ai cherché des ressources autour de moi pour traverser cette période. J'habite au Pays Basque. J'ai trouvé des appuis qui me permettent d'être là aujourd'hui, de parler devant ce micro pour partager mon expérience et vous encourager, pour vous aider à faire les premiers pas difficiles sur ce nouveau chemin que vous comme moi, vous n'avez pas choisi, mais aussi pour remettre en question des idées reçues et des tabous, pour vous faire rencontrer des personnes inspirantes qui peuvent être là pour vous aussi comme elles l'ont été pour moi. La perte et le deuil sont dans notre vie, inutile de se le cacher, on va en parler au contraire. Le deuil autrement, c'est une autre route que nous pouvons prendre ensemble. Je n'ai aucune connaissance professionnelle ni rien à vendre dans ce domaine. Si vous avez appuyé sur play pour ce podcast, félicitations, vous avez fait un premier pas. Venez avec moi, je vous emmène. Alors dans cet épisode et ceux qui vont suivre, on a décidé de se prendre par la main. Je sais, c'est pas très facile, c'est pas toujours possible, mais là on décide d'être dans la vie telle qu'elle se présente. Quelque part, en ayant des activités, en réalisant des choses, ben on se reconstruit. Et bien sûr, le manque que l'on vit, lui, il sera toujours là. Mais ça nous permet de nous solidifier un petit peu dans cette période où évidemment on est vulnérable, où une partie de nous-mêmes a disparu avec le décès de la personne qu'on aimait. Alors ça nous permet de nous reconstruire. Et ces personnes diverses et variées que je vais vous présenter les unes après les autres peuvent participer à ça. En tout cas, moi, ça a été mon expérience et moi, ça m'a fait du bien et je voulais vous partager tout ça. Et surtout, pas de culpabilité hein, de faire des choses pour vous car c'est la vie qui est là et c'est comme ça qu'on peut traverser en laissant aussi la vie nous proposer ce qui vient et finalement ce qui est bon pour nous. Laissez-vous guider à travers ces personnes, je suis sûr que vous trouverez des choses intéressantes. Donc bonjour à tous, aujourd'hui donc, on reçoit Marcus Vider, c'est Vider ou...
Vider, oui.
Ouais, Marcus Vider. Bonjour Marcus.
Bonjour.
comme vous l'entendez, Marcus a un petit accent, sa langue maternelle c'est l'allemand, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Et donc il va faire un effort pour essayer de parler en français, qui est sa troisième langue. Et puis peut-être si le mot anglais est plus facile, tu pourras compléter avec un mot anglais si tu veux, pour préciser ta pensée pendant la discussion.
Merci.
Et puis moi je traduirai.
J'essaye, ouais.
Donc j'ai proposé cette interview parce que dans les pratiques qui nous remettent en connexion avec notre corps, moi j'ai l'expérience des huttes de sudation que tu animes depuis longtemps, entre autres choses, car tu as de nombreuses activités, Marcus, tu fais beaucoup de choses, tu vas nous en parler. Les huttes de sudation, c'est une pratique très ancienne, en fait, utilisée par plusieurs civilisations différentes. On va en parler dans le détail. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai pu profiter des bienfaits de ce genre de pratique. Et on a une chance énorme d'avoir Marcus sous la main, donc je l'ai saisi. Je crois qu'il fait ça avec plaisir. Donc, tout va bien. Avant de démarrer, on va parler un petit peu de toi, Marcus. Pour moi, tu es quelqu'un de très singulier. Tu as passé une partie de ta vie à explorer différents continents et différentes approches spirituelles. Moi, j'ai cette idée de toi. Alors, tu es un petit peu le VRP, le commercial des pratiques. Tu connais beaucoup de pratiques en dehors des codes religieux classiques. Tu as une grande expérience de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter en deux minutes, Marcus, voilà, qui tu es, c'est difficile.
Bonjour à tout le monde. J'étais éduqué dans la christianité et j'ai pris les études de la théologie protestante en Suisse. Et j'ai presque fini, pas tout à fait fini. Et à la fin de mes études, j'ai senti comme je voudrais bien percer un peu plus loin, aussi dans les expériences, pas seulement dans les théories, dans les réflexions. Et là, je perçais dans l'expérience de la spiritualité avec les Amérindiennes, mais aussi avec les bouddhistes et avec une tradition soufie. J'ai focusé tout le temps qu'est-ce que c'est la spiritualité, l'expérience spirituelle, et qu'est-ce que ça fait avec moi dans mon quotidien. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça remplace une thérapie, ou est-ce que ça ouvre quelque chose de complètement différent? C'était un peu le début. Et là, j'ai fait mon parcours, et aujourd'hui, je propose beaucoup de cérémonies. Et je propose aussi des lectures et des formations dans la coaching spirituelle. Comment on peut accompagner une personne dans son processus spirituel. Dans mon compréhension, nous sommes tous dans un processus spirituel, si on veut ou si on ne veut pas. Et on passe, le processus spirituel, c'est le processus de vie. On est né, on grandit, on accueille des compétences. Et très très vite, presque après 20 ans, ça commence déjà à démonter, à perdre le perspective. On agit, on devenir plus âgé, et là on se confronte avec les limites, et à la fin on se confronte à la mort. Et tout est comme une préparation spirituelle pour quelque chose qui passe pendant la vie, mais aussi pendant la mort et après la mort.
D'accord, merci. Alors ça nous ouvre pas mal de questions. Dans cette émission, je pose toujours les mêmes trois questions, puis c'est une émission sur la question du deuil et comment on traverse cette partie-là. Alors, voilà les trois questions que je pose à chaque fois à nos invités. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, quand je t'ai proposé cette interview et de parler de ce sujet?
J'étais surpris parce que j'ai pas tellement beaucoup d'expérience avec le deuil. Mais je trouve le deuil, il a beaucoup à faire quand je fais les cérémonies pour les gens, et il rentre aussi une forme de deuil. Et le deuil est souvent présent dans la vie, mais dans les manières très subtiles.
D'accord. Tu veux dire des deuils qui ne sont pas des pertes de personnes qui sont décédées, mais des deuils.
De perdre une situation,
Voilà.
perdre une amitié, perdre une job, un travail, une relation, des choses comme ça, oui.
Je comprends tout à fait. Donc toi, alors, est-ce que tu as, dans ta vie, tu as sûrement, comme tout le monde, dû être touché par un deuil, la perte de quelqu'un qui était plus sensible pour toi? Est-ce que tu peux nous en parler, de qui il s'agissait et dans quelles circonstances?
Oui, c'était une de les plus grandes deuils que j'ai vécues dans ma vie. C'était une amie qui est venue dans ma maison et qui est morte dans ma maison complètement inattendue. Et il était jeune,
Ouais.
et il était à ma côté. Et là, ça a créé une deuil très spécifique, très surprenante. Prenons, parce que tout était comme un accident, même ce n'était pas un accident. Et là, j'ai traversé une grande nuit, on peut dire. Hein,
Ouais.
après le deuil, c'était comme une grande nuit avec beaucoup, beaucoup d'ombre et de tristesse. Et ça m'a pris bien à peu près 3 ans pour le digérer.
Ouais.
Et il était mort sans avoir des signes extérieurs.
D'accord, il est mort brutalement chez toi,
Brutalement,
c'est un ami à toi.
oui, exact.
D'accord. Ok. Alors, tu dis 3 ans pour le digérer. Donc,
Minimum, oui.
oui, nous on a vu que le deuil, en fait, il peut durer toute une vie, et donc c'est difficile, mais où est-ce que toi tu en es par rapport à ce deuil? Où est-ce que tu en es sur ce chemin? Est-ce que tu es apaisé? Comment
Aujourd'hui,
tu pourrais dire, toi, aujourd'hui? Ça fait combien de temps?
oh, ça c'était quand même à peu près 20 ans.
Ouais.
Hein. Aujourd'hui, je suis apaisé. J'ai intégré qu'est-ce qui se passait, et ça reste quand même comme une rupture dans la vie.
Ouais.
Quand je regarde, quand je me prends conscience, c'était une rupture grave.
Dans ta vie à toi, un
Oui,
événement
oui,
très important.
oui.
D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui traversent un deuil? Par rapport à cette expérience, toi,
Oui, peut-être j'ai deux conseils à donner, si on peut dire conseil, hein, c'est très personnel. La première chose est, on ne peut pas faire beaucoup. On peut laisser arriver en soi des différentes vagues, des différentes couches de deuil. Et si on essaye de faire de deuil plus, ça marche pas. On a besoin de d'attendre à sa âme. Comme ça, l'âme peut processus, qu'est-ce qu'elle a besoin de procéder dans la deuil. Donc, la première chose est de ne pas pousser ou de ne pas essayer beaucoup, mais de laisser faire, de laisser arriver qu'est-ce qui veut arriver en soi avec le plus grande honnêteté et présence. Parce qu'il y a différentes choses qui peuvent arriver. Une est la colère, une est la déception, une est l'impuissance, une est l'essai de fuir, de s'occuper avec les choses. Et ça, c'est toutes les différentes couches qui sont besoin d'être vie et inhabitées. Habiter.
Vécu,
Vécu.
ouais. Ok, donc c'est ça, on laisse le temps, on se laisse
Oui,
le
ça c'est
temps.
une chose, oui. Et te laisse faire, laisse
Laisser
faire.
faire,
Et
oui.
avoir confiance en soi que le soi ou l'âme en soi digérer les choses avec le temps et les besoins. Et là, il y a des choses, l'âme, là, il y a des impulses qui aident. Qui on peut sentir les impulses qui viennent de crier, de pleurer,
Oui.
de se complaindre, de bouger, de rire, de tourner un peu comme un peu fou. Ça, c'est tous les impulses qui viennent, qui sont bien, quand ils sont accueillis, quand ils sont permis de se sortir.
Oui, ce que tu appelles impulse, c'est oui, des impulsions, c'est-à-dire
Des
des choses
vagues.
qui viennent très spontanément, des émotions
Oui.
spontanées qu'il faut laisser venir.
Oui, aussi des impulses de l'action. Par exemple, de courir ou de couper le bois ou de plonger dans une pompe froide ou l'eau ou des actions qui viennent soudainement
Oui.
de le faire, de le suivre et de
D'accord.
ne pas supprimer.
Ouais. Donc se laisser
Ça,
se
c'est.
guider. D'accord.
Comme une chose et l'autre chose est de prendre la chance de voir, parce que c'est comme une autre lumière qui rentre quand il y a une décès. C'est comme j'appelle ça la lumière de la noire. Et quand on reste présente, on commence à voir la valeur de les choses et de les actions change. C'est comme on commence à voir le monde dans une autre manière. Et de laisser ça rentrer, laisse ça rentrer.
Oui, tout à
Là,
fait.
il y a une grande chance de réaliser beaucoup. De réaliser, par exemple, je ne veux pas du tout continuer ma vie comme ça, je veux changer quelque chose qui me semble beaucoup plus adéquat. Et là, il y a des changements, des réalisations possibles qui ne sont pas possibles si il n'y a pas une deuil. Sur la deuil, il apporte beaucoup de nouvelles compréhensions, des nouvelles sentiments de soi et de la monde, et il apporte des nouvelles manières d'interagir avec les animaux, beaucoup plus doux, beaucoup plus gentils, par exemple. En face de la mort, on rentre une gentillesse, on touche une gentillesse en soi qui est très valuable, qui est très précieux. Et il y a beaucoup, ça c'est l'autre côté, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le deuil. Le deuil, il n'est pas seulement passif et noir, il apporte beaucoup de surprises. C'est un temps très actif, très recablement antérieur.
Merci Marcus de ce que tu nous, de ce que tu nous, ce que tu nous dis là, c'est très important, effectivement. C'est que derrière cet événement sombre, il y a effectivement des choses qui se révèlent et la vie change pour nous. Et donc on voit les choses de façon différente.
Oui, c'est tellement dans l'obscurité. C'est quand on dit, OK, maintenant je suis dans l'obscurité et je l'accepte, et maintenant j'ouvre mes yeux et mes oreilles, maintenant je veux rester présente, maintenant je ne veux pas prendre la fuite, je veux voir qu'est-ce que ça fait maintenant, je veux rester présente et attentif. Et là, les choses viennent peut-être pas direct, peut-être un peu plus indirect ou à la périphérie, la conscience réveille, mais ça, c'est super précieux.
Ouais, on a une nouvelle conscience
Oui,
de la vie. Ouais.
on fait une naissance aussi,
Une
une
naissance, ouais, une
renaissance, hein.
renaissance. Ouais.
Oui.
Alors toi, tu as eu l'occasion de voyager, de découvrir des civilisations différentes. Et par rapport à la façon dont le deuil est vécu en France, enfin je veux dire peut-être en Europe occidentale, par rapport à ce que tu as pu voir à l'étranger, la façon dont le deuil est vécu, qu'est-ce qui est différent ici? On a vu, nous, qu'on est vraiment... La mort, c'est la fin de quelque chose, on célèbre pas ça de façon joyeuse du tout, comme d'autres civilisations. Qu'est-ce qu'on peut trouver ailleurs comme autre façon de célébrer la mort, le passage de ce qu'on aime? Est-ce que toi, tu as vu des civilisations différentes? Tu as vu des façons de faire différentes?
Peut-être avant je rentre dans te donner une réponse de ça, je voudrais bien ajouter quelque chose. Quand j'étais dans la deuil très profonde, tu vois, il y a des moments on peut toucher aussi beaucoup de joie parce qu'on se sent proche à l'esprit. Et si on est ouvert, présente, et là on peut toucher beaucoup de différentes choses. Et ça, c'est quelque chose qui. Quand on reste dans le deuil comme on est connu, dans notre monde, ça veut dire on pleure et on est en dépression, on ferme complètement. Là, parce que c'est comme notre manière de comprendre, c'est le deuil correct. Et là, on rate les choses. Et parce que les choses qui sont apportées dans le deuil, ils sont aussi très beau. Et quand on ferme, parce qu'on a le sentiment maintenant, il y a quelqu'un qui est mort et j'ai besoin d'être triste, là on ferme à cause des raisons culturelles. Et on a besoin de résister un peu l'attente de l'extérieur et de dire maintenant, je touche aussi beaucoup des choix, je touche des questions profondes qui me déstabilisent et de laisser ça faire et de l'exprimer ça extérieur. Comme ça, le deuil peut se passer. Je trouve notre culture, il a une compréhension de deuil qui est très limitée et très pauvre. Parce que dans ce deuil, il y a l'attente qu'on ne peut pas avoir joie. Par exemple, on ne peut pas avoir touché le joie ou la folie un peu. Et dans le deuil, il y a tout ça possible. Et ça, c'est important. Ça, c'est pas seulement important pour traverser le deuil. Ça, c'est important parce que dans là, on peut toucher quelque chose de différent qui deuil différemment en nous. Et ça, c'est notre esprit. Et notre esprit, il a plus accès à nous, à notre personnalité, quand il y a une deuil, parce que la deuil est déstabilisante, la deuil est un choc d'une réalité plus grande. Et là, on a beaucoup de chances, on peut rater si on fait comme il faut.
Oui, c'est
On
une
a besoin de faire
opportunité.
complètement différent comme il faut. C'est
Ouais.
très personnel, le deuil.
C'est une conscience qu'on a, qu'on peut acquérir à cette occasion-là.
Une
Il y a le,
chance,
une chance
oui, une ouverture.
d'une ouverture de
Oui.
conscience. Et en même temps, la société nous oblige, enfin
Oui.
nous impose des
Oui,
codes,
oui, oui,
etc.
oui,
Et
oui.
si je suis veuf, je ne peux pas rire dans la rue parce qu'on va
Oui,
dire oh là là, c'est
oui.
pas bien, etc. C'est ça que
Oui.
tu veux dire, ouais.
Et dans les autres traditions, il y a par exemple les femmes de deuil ou les gens de deuil qui accompagnent un enterrement, qui crient, qui rigolent, qui sont très expressifs, qui aident les gens qui sont dans le deuil de tellement prendre tout l'espace, toutes les expressions. Parce qu'il y a toutes les expressions dans le deuil, il n'y a pas seulement la tristesse. Mais quand on focus sur la tristesse, toutes les autres énergies, tous les autres impulses se tournent et deviennent comme lourd, comme une dépression. Et là, il y a beaucoup de différentes manières d'exprimer tout. La rire, la folie, la joie, la perte de contrôle, qui est tout dans le deuil.
Tu veux dire que c'est le deuil qui provoque ça chez les autres, qui peut provoquer, mais qui est...
Qui a besoin.
Ouais.
Hein, dans le deuil, on se décroche de notre compréhension de la monde.
Ouais.
On se décroche, on se réveille dans un monde beaucoup plus grand. Et il y a des différentes impulses en nous qui veulent nous réveiller.
Ouais. Ouais.
Et si on supprime ça, il tourne dans une dépression qui est, dans laquelle il n'y a pas beaucoup.
D'accord, j'ai compris. Donc là, tu parlais de certaines civilisations, traditions. Il y a des choses ailleurs que tu as vues qui sont encourageantes, enfin, je ne sais pas, mais...
Qu'est-ce que j'ai vu? Et ils sont dans les civilisations qui sont moins déconnectées avec la nature.
Ouais.
Ils sont beaucoup plus directs. Ils crient. Ils sont expressifs.
Le jour du deuil, le jour de l'enterrement ou après.
Il prend une place pour exprimer et tout le temps très fort extérieur et ça aide beaucoup.
Ouais.
Il peut crier, sans contrôle. Et ça, c'est très important. Et là, il touche quelque chose de différent en nous qui n'est pas seulement le deuil de psy. Il touche là avec les réactions un peu en dehors de l'écho. Il touche une conscience, une force en elle. Et celle-là, j'appelle une connexion avec leur esprit, qui fait pas un deuil comme dans personnalité, qui réveille dans la mort, qui se réveille, qui est contente que maintenant, finalement l'illusion commence à être un peu moins fort. Et c'est l'esprit qui réveille.
Ouais. Tu veux dire qu'on s'ouvre? On s'ouvre à une réalité qui est plus grande.
Oui, qui n'est pas limitée à la mort.
Ouais.
Et ce n'est pas une croyance. J'ai beaucoup entendu des gens qui me disent, mais les gens qui croient quelque chose, ils avaient seulement peur qu'il n'y a rien après la mort. Et je trouve ça ignorant complète. Parce que c'est pas, ça prend beaucoup plus de courage de s'ouvrir dans le deuil et dire « il y a quelque chose beaucoup plus grand ». Ça, ce n'est pas une fuite. Ça, c'est le courage.
Ouais.
Si il y a quelque chose, moi, qu'est-ce que je pense de la monde est faux. Et c'est ça qui fait mal. Et on n'accroche pas à les choses quand on ouvre vers une monde beaucoup plus grande. Ça veut dire que ce n'est pas une fuite. Ça, c'est un essai de rencontrer plus de réalité.
Ouais. Une ouverture, d'accord. Alors, on parle aussi, donc moi j'ai voulu qu'on t'écoute pour nous parler des huttes de sudation, parce qu'effectivement, on a vu que quand on perd quelqu'un, finalement on perd une partie de nous-mêmes, surtout quand c'est sa femme ou son enfant, on se sent comme amputé de quelque chose, et moi j'ai trouvé que quand on faisait des activités qui touchent au corps, qui nous permettent de nous ressentir dans notre corps, ça nous faisait du bien. Et les huttes, c'est une expérience très particulière. Et je trouve que ça nous reconnecte en fait à nous-mêmes. Alors c'est éprouvant physiquement. Alors j'explique à ceux qui qui ne connaîtraient pas. Donc on est dans le noir, si je résume, hein, c'est dans une hutte, donc c'est comme une tente assez basse. On rentre à l'intérieur, on ne peut pas se tenir debout, on est tous assis en cercle, en tailleur, autour de l'animateur, je vais dire. Donc c'est le chaman ou en l'occurrence c'est toi, comme dans une petite caverne, il fait très noir, il fait complètement noir même, et donc on abandonne ses vêtements, enfin on a juste le minimum, et puis vous n'avez plus de vous laisser dehors tous vos outils, tous vos clés, tous vos biens en fait, les lunettes, les bagues, etc. Et puis on rentre dans cette expérience où effectivement alors comment tu l'appelles, l'animateur, le chaman, le...
Oui, c'est l'un qui donne l'eau sur les pierres.
Oui.
Oui, c'est la personne qui donne l'eau.
Ouais.
Oui.
Donc lui, en l'occurrence c'est toi, donc il anime, il donne aussi de...
Qui danse des mots.
Ouais, une guidance,
Oui.
voilà, qui apporte voilà un thème qui va être et qui va guider les participants. Donc des pierres sont apportées de l'extérieur, des pierres de lave qui ont été chauffées, et donc c'est une hutte de sudation puisque c'est hermétique et il fait très chaud et on transpire et on entend en même temps donc cette guidance qui est faite. Bon, on pourrait faire des heures sur le sujet. Des huttes, il doit y avoir d'ailleurs des podcasts, des émissions sur ce sujet-là. Quel est le principe de ce contact? D'où ça vient cette pratique? Pourquoi c'est de la chaleur est utilisée comme ça?
Peut-être je veux rentrer ça dans le contexte d'œil, parce que ça a beaucoup à voir avec le
Oui.
deuil. Hein. Ça, c'est des cérémonies anciennes. Et dans les cérémonies anciennes, tout le temps, le but était de créer un environnement que les gens peuvent toucher une autre nature en elles. Parce que s'ils touchent une autre nature en elles, ils sont beaucoup plus courageux, ils peuvent lâcher beaucoup plus vite qu'est-ce qu'ils avaient perdu, ils peuvent réaliser qu'ils n'avaient pas perdu une partie de soi parce qu'ils ne sont pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ça leur libérait beaucoup. Toutes les cérémonies sont un endroit ils créent un endroit dans lequel c'est plus possible. C'est la possibilité est plus grande que les gens peuvent toucher leur esprit. Et pour ça, ils ont besoin de perdre l'orientation. Parce que si on reste en orientation, en contrôle, on n'a aucune idée de l'esprit. On ne peut pas toucher l'esprit. L'esprit est seulement touchable quand je tombe, quand je perds mon contrôle. Et le noir et les chaleurs, ils s'aident. Ça, c'est deux éléments qui aident beaucoup que c'est trop. C'est trop noir, c'est trop chaud. Maintenant, je perds un peu mon contrôle. Et quand je perds mon contrôle, c'est là les choses deviennent intéressantes parce que là, la connexion avec l'esprit est possible. Et quand on fait une connexion avec l'esprit, ça, c'est beaucoup plus énergétisant et beaucoup plus vite. Les processus après sont beaucoup plus vite de deuil ou des autres choses, de au revoir ou de réorientation. Et pour ça, les cérémonies sont créées comme ça, les gens peuvent avoir accès à leur esprit. Mais nous vivons dans un monde où l'esprit est nié. Et à cause de cette conscience collective qu'il n'y a pas un esprit, notre deuil devenir insupportable. Parce que l'ouverture est plus possible. On prend la possibilité de l'ouverture dans le deuil. On prend la possibilité de perte de contrôle. Parce que c'est dans la perte de contrôle qu'on peut faire la connexion avec l'esprit.
Donc en fait, on s'extrait de la réalité en rentrant dans cette hutte qui est hermétique, dans laquelle il fait noir, il fait chaud, on s'extrait de tout le reste en fait, et on se retrouve là seul. Et donc tu nous dis, voilà, il y a une connexion avec notre esprit profond
Possible.
qui peut se faire à ce moment-là.
Oui, c'est dans les expériences limites, on peut dire, les
Ouais.
expériences dans lesquelles je perds mon contrôle, c'est là la connexion avec l'esprit est possible, travers le corps. Et c'est aussi comme on se prépare pour mourir dans la hutte. Hein, c'est noir, c'est chaud, c'est trop. On ne peut pas être plus fort que la chaleur est tout le temps plus fort que nous. Et là, on touche un petit peu la situation de complète impuissance.
Ouais.
Et dans la complète impuissance, on a la chance de toucher l'esprit.
Ouais.
Et pour ça, ils avaient créé cet endroit. Et parce que si vous avez des problèmes psychiques ou les choses qui sont les confusions, on retourne vers la sérénité beaucoup plus vite et facile si on contacte l'esprit. Parce que l'esprit met les choses en place. Et c'est déjà connu depuis longtemps, quand les gens touchent l'esprit, l'ordre s'installe, les choses se mettent en place, l'énergie circule.
On est vraiment au cœur de soi, là, hein, dans cette situation, comme tu dis, il fait très chaud, il fait très noir, c'est vraiment, on est obligé de lâcher, lâcher le corps, on est obligé, voilà, on se, je ne sais pas comment dire...
De lâcher les pensées, lâcher les idées, lâcher les croyances, lâcher soi-même.
Ouais.
Et là, quand on lâche soi-même, on ne meurt pas, il y a quelqu'un, quelque chose.
Ouais.
Et c'est ça que j'essaie de créer, comme ça les gens peuvent toucher ça.
Ouais. Quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on découvre.
Oui, l'esprit.
Une fois qu'on est comme ça, vraiment...
On lâche vraiment.
Ouais. Merci Marcus. Donc là, tu nous as expliqué en fait pourquoi ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on touche, on est démuni, on touche l'esprit, on peut s'ouvrir à quelque chose et on peut remettre un peu d'ordre en fait, finalement, dans la confusion dans laquelle on peut être, dans la tristesse, dans le... C'est ça que tu dis.
Qu'est-ce que je dis ? Et quand tu fais un contact avec l'esprit, l'ordre est réinstallé. C'est pas toi qui fais. C'est comme l'esprit est beaucoup plus grand énergie que notre vitalité. C'est beaucoup plus fort. Et quand tu touches ça, ça met comme une field magnétique, ça met les choses en ordre tout de suite. Et là, si les choses sont en ordre, on peut lâcher les confusions, on peut lâcher le perdre, on peut lâcher tout parce qu'on a quelque chose de différent. Et qu'est-ce que c'est qui est différent ? On a toucher l'esprit. Et ça nous permet de lâcher. Parce que c'est plus fort.
D'accord, merci. Dans ces huttes, dans cette guidance, souvent on fait référence à la nature, aux éléments, aux points cardinaux, et à ce qui nous entoure. Il y a aussi parfois une thématique, un thème.
Oui. C'est plutôt pas des thèmes, c'est plutôt la personne qui donne l'eau sur la pierre, il écoute intérieur. Et c'est comme intérieurement, il fait un contact avec quelque chose. Et qu'est-ce qu'il contacte intérieur ? C'est souvent qu'est-ce que les gens sont en contact pas très conscience. Et là, il suit cette fil intérieur dont les connexions est là, ça devenir comme un thème, mais c'est comme une guidance vers soi-même.
Vers soi-même, oui.
Ouais. Mais ce n'est pas un thème, les gens...
C'est un prétexte, en fait. C'est comme
quelque chose qui est trouvé dans le moment.
Ouais.
La personne qui quitte la hutte, il écoute intérieur, et jusqu'à un moment, il trouve où est la connexion. C'est pas, il ne prépare pas, il ne fait pas... Qu'est-ce que je parle de quoi nous parle aujourd'hui ? Pas du tout.
Il prépare reste pas, c'est pas préparé.
Vide. Ouais. Ouais.
D'accord. Est-ce que les huttes, c'est des choses qu'il faut faire souvent ou est-ce que on le fait une fois ? Quel conseil tu pourrais donner ? Est-ce que j'en fais une fois par an ? Est-ce que je dois en faire souvent, toutes les semaines ? Qu'est-ce qui déclenche ? Qu'est-ce qui doit déclencher ça chez nous ?
La première chose, les huttes ne sont peut-être pas pour tout le monde. C'est quelque chose à découvrir. Si c'est un chemin pour soi-même, s'il peut rentrer là et il peut faire la expérience de lâcher. Pour certaines personnes, la chaleur provoque une autre réaction. Et pour celles-là, ce n'est pas le meilleur utile. D'accord. Mais quand on a fait un essai, on a essayé, c'est un chemin à prendre. Et ce chemin, chacun peut décider dans quelle intensité il veut prendre ce chemin. Une fois par an, ou une fois par mois, ou deux fois par mois, ou une fois par trois mois, ou comme il veut, c'est à soi-même de décider dans quelle intensité.
Ouais. C'est-à-dire que c'est à la personne qui décide de s'ouvrir et d'aller sur son chemin intérieur,
oui.
De voir quelle fréquence il veut et quelle énergie il va mettre dans son chemin.
Oui.
Et voilà. Et évidemment, ceux qui sont sensibles à la chaleur, c'est pas recommandé pour eux. Merci Marcus. J'ai une question. Alors, là aussi, ça va être difficile de faire 5 minutes ou 2 minutes, mais quelle est ton approche aujourd'hui de la mort? C'est-à-dire, nous, on reste là, on est sur cette terre, les autres sont partis, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'ils nous ont abandonnés? C'est une première question. Quelle est ton approche de la mort? Pour toi, la mort, c'est quoi? Et nous, qui vivons ça comme un abandon, est-ce que c'est le cas ou pas?
Pour moi, la mort est comme une grande porte. Et à travers cette porte, nous réalisons que nous étions tout le temps dans une illusion. Et à derrière la porte, il y a comme des processus qui nous attendent, des processus de nettoyage, des processus de recablement, on peut dire, de notre esprit. Et il se incarne dans une autre forme, dans une autre place et temps. Mais après ce nettoyage qui est derrière la porte. Et la porte, pour moi, j'aime pas trop l'idée que les gens qui sont morts, qui sont encore là et qu'ils nous attendent dans une forme nous connaissons. Qu'est-ce que je pense, c'est plutôt, il y a des gens qui sont coincés, qui sont pas traversés tellement la porte, mais ils sont physiquement morts. Et là, ils sont entourés, ils sont là et ils sont embêtés parce qu'ils cherchent un endroit de se cacher. Mais normalement, quand on passe la mort, on passe le processus, c'est seulement l'esprit qui continue à vivre, pas la personnalité, c'est l'esprit. Et l'esprit, il cherche une autre forme de se incarner. Mais l'esprit, il est sans début et sans fin. Il continue.
D'accord. Et ça, c'est une tradition particulière.
C'est une tradition qui est liée avec la compréhension des bouddhistes.
D'accord.
Et qui est aussi liée avec une compréhension que le monde n'est jamais une ligne, c'est tout le temps un cercle.
D'accord.
C'est jamais une ligne de A à B, c'est un cercle. Tout est organisé dans un cercle.
D'accord. Donc par rapport aux gens qui sont en deuil, tout à l'heure tu nous as donné des conseils, mais de façon plus générale, par rapport à l'acceptation de la mort des proches, qu'est-ce qui te viendrait à l'idée?
J'aime pas trop des conseils. Je trouve, comment on peut devenir plus disponible pour la vie? Et comme ça, on peut devenir plus disponible pour la mort aussi, parce que la vie et la mort, c'est la même chose. Et quand on te se laisse être touché par la mort, te se laisse être touché par la vie, te se laisse être touché et avoir des impulses de soi-même, de les autres, de ne pas fermer. Tu restes le plus ouvert possible dans la mort, dans la vie, comme ça la transformation est pas retirée.
Ouais. Donc être disponible à la vie, ça c'est beau, ça me plaît beaucoup, ça, être disponible, être vraiment en conscience dans ce qu'on fait avec les gens, avec qui on est, c'est ça que tu appelles être disponible, la disponibilité à la vie. C'est passer chaque moment vraiment en conscience avec les gens, avec dans nos actions. Et ça me plaît beaucoup, ça. Être disponible à la vie. C'est un beau conseil, ça.
Oui, bon. Le plus possible, d'engager dans la vie, de plonger dans la vie, de risquer tout. On peut tellement vivre avec tout possibilité.
Ouais.
C'est la meilleure préparation pour la mort.
Ah ben écoute, on va conclure là-dessus alors. Merci beaucoup, Marcus. Merci.
Merci. Ah, peut-être une chose, si les gens sont intéressés pour faire une fois une hutte ou ça, ou quelque chose, il y a les nomades spirituels comme
.com.
Ils ouais. peuvent trouver les huttes qui sont faites en ce manière.
Alors moi, je mettrai le lien sur le site.
Merci.
Ok, merci Marcus.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous voulez soutenir mon initiative, vous trouverez un lien dans la description ou bien sur la plateforme Ulule. Dans tous les cas, merci. Je veux vous encourager. La vie est là, profitez-en. Vous pouvez traverser. Et surtout, cultivez l'amour. C'est le plus important. À bientôt.